arrière pour évoquer un cycliste du Tour 1934, cycliste qui va devenir le plus populaire de France en raison d'un épisode totalement incroyable qui a eu lieu dans les Pyrénées. Ce coureur, il s'appelait, et moi je vous avoue que je ne le connaissais pas, René Vietto.
Et voilà, vous ne le connaissiez pas, mais c'est peut-être un des coureurs les plus incroyables de l'histoire du Tour. Pourquoi ? Eh bien, pour ce qui s'est passé le 20 juillet 1934 dans le col du Porté d'Aspet. C'est ce jour-là qu'il est entré dans la légende du Tour. Alors, s'il fallait exprimer par un exemple pourquoi et comment cette épreuve est épique, eh bien l'histoire de René Vietto, à mes yeux en tout cas, est la plus éloquente. Pour en apprécier toute la saveur, on se met d'abord dans le contexte. Depuis 1930, le Tour se court par équipe nationale. Et à chaque fois, ce sont les Français qui l'emportent. Leurs plus sérieux rivaux, ce sont les Belges, ils gagneront d'ailleurs l'année suivante, et les Italiens. L'année précédente, on a créé le Grand Prix de la montagne du meilleur grimpeur. Et en 1934, on crée pour la première fois une étape contre la montre. Voilà pour le contexte.
Quant à René Vietto, c'est un méridional. Il est né près de Cannes. C'est son premier Tour de France. Il a été sélectionné dans l'équipe nationale pour ses qualités de grimpeur. Bah, c'est encore loin d'être une vedette du cyclisme. Hein.
Non, la star de l'équipe de France, c'est Antonin Magne, qui a déjà remporté un Tour de France et qui, d'ailleurs, au pied des Alpes, c'est lui qui détient le maillot jaune avec une avance tout de même de 8 minutes sur son plus proche rival, l'Italien Martano. Et dans les cols alpins, voilà René Vietto qui entre en action. Les observateurs sont subjugués par son style, par son élégance. Il se déhanche à peine, il pédale en souplesse, il passe en tête le Galibier, il l'emporte à Grenoble, il remet ça le surlendemain par les cols de Vars et d'Alos. Imaginez trois victoires d'étape en 5 jours en montagne. La troisième, c'est chez lui, à Cannes, où Vietto était groom à l'hôtel Majestic. Cela donne lieu à une liesse dont les méridionaux ont le secret. Le service d'ordre à Cannes est complètement débordé et Vietto est carrément porté en triomphe à l'arrivée.
Et René Vietto devient le roi René, hein, en référence à René d'Anjou, comte de Provence au XVe siècle, vu comme un bienfaiteur par les Provençaux. La France entière s'enthousiasme pour ce gamin de 20 ans. Bref, on pourrait résumer ainsi ce Tour 1934, Pierre, acte 1, l'euphorie des Alpes.
Et passons à l'acte 2, la tragédie des Pyrénées. Au pied du massif pyrénéen, Antonin Magne est toujours en jaune, mais l'Italien Martano s'est rapproché, il n'est plus qu'à 2 minutes. Sur la route d'Aix-les-Thermes, Magne tombe, il se relève, mais la jambe de sa roue est éclatée. Sans hésiter, Vietto s'arrête et lui dit « Tiens, prends ma roue ». Magne limite les dégâts à l'arrivée, mais Vietto rétrograde au classement général. Le lendemain, ascension du Porté d'Aspet, nous y voici. Antonin Magne entame la descente dans la roue de René Vietto. Nouvelle ennui mécanique pour le leader de l'équipe de France dont la chaîne saute. Vietto ne s'est aperçu de rien jusqu'à ce qu'un motocycliste vienne l'avertir. Alors, l'incroyable survient. René Vietto s'arrête et remonte le col à contresens pour retrouver son leader. Oui, vous avez bien entendu. Antonin Magne, lui non plus, il n'en revient pas, mais ni une ni deux, il s'empare du vélo de René Vietto et fonce pour sauver son maillot. Il y parviendra d'ailleurs.
Quant à René Vietto qui rêvait du podium à Paris, le pauvre, il devra attendre longtemps pour être dépanné. Il s'assied sur le parapet aux côtés du vélo cassé d'Antonin Magne. Il pleure à grosses larmes et c'est là qu'il est découvert par un photographe de presse qui l'immortalise ainsi.
La puissance de l'image, le cliché, va émouvoir la France. Le jeune grimpeur prometteur s'est sacrifié pour sauver son leader qui gagnera son deuxième Tour de France. Vietto finira tout de même cinquième, vainqueur du Grand Prix de la montagne.
Ah bah oui, il a carrément fait demi-tour et remonté un col pour aller chercher l'autre.
Je ne sais pas si c'est prévu, c'est dans les points, mais voilà, on se dit après tout qu'à 20 ans, bah, il a l'avenir devant lui. Sauf que l'ancien groom devenu vedette a du mal à gérer ce nouveau statut. Il ne sera pas à la hauteur durant les années suivantes jusqu'au Tour de France 1939. Maillot jaune durant une grande partie de l'épreuve, il est attaqué dans l'Isoar par notre compatriote Sylvain Mas. Un duel un peu à la Pogacar-Vingegaard, si vous voulez. C'est Vietto finit par lâcher. Sylvain Mas l'emporte à Paris devant Vietto deuxième.
Bon, Vietto est encore jeune, il espère fermement prendre sa revanche l'année suivante, sauf que l'année suivante, bah, c'est 1940 et avec la guerre, fini le Tour de France. Faudra attendre, Pierre, 1947 pour que le Tour reprenne vie.
Dans une ferveur indescriptible, parce que le retour du Tour, c'était le retour des beaux jours après le cauchemar de la guerre. Et la France, cela manifeste que la France est vivante, écrira d'ailleurs le poète Aragon dans un poème lyrique au Tour de France. Dès la deuxième étape qui conduit les coureurs de Lille à Bruxelles, coucou, qui voilà, revoilà René Vietto. Et oui, il a alors 33 ans tout de même, il lâche sur les pavés les Belges sur leur terrain de prédilection, et le voilà qui retrouve à Bruxelles le maillot jaune qu'il va garder sur les épaules jusqu'à 2 jours de l'arrivée, et c'est le contre-la-montre qui lui sera fatal, un contre-la-montre de 139 kilomètres tout de même, oui, vous avez bien entendu. Dégoûté, Vietto décide d'abandonner. Les journalistes qui le connaissent se précipitent, lui disent « Mais enfin, René, tu ne peux pas abandonner à 2 jours de Paris ?» Alors René Vietto l'étoise et leur dit, comme aurait dit un Rému, « Sachez messieurs qu'un Vietto n'abandonne pas, il se retire. » Voilà, conclusion François, en termes d'aveu, j'avoue avoir une tendresse particulière pour ce coureur qui a enchanté tout un pays, qui l'a fait pleurer, qui s'est fait voler ses meilleures années par la guerre, mais qui est réapparu en même temps que revenait le Tour de France. Il a pour moi sa place au Panthéon, au même titre que les Merckx, Poulidor et consorts. René Vietto, le plus épique des coureurs, puisqu'il résume à lui seul tous les ingrédients de cette glorieuse incertitude qu'est le Tour de France.
René Vietto, merci beaucoup.